On croit tout connaître du destin de Jeanne d'Arc. Mais qui était vraiment cette héroïne malgré elle? Déambulez dans Don Rémy, son village natal. Découvrez la maison de son enfance, les moments clés de son histoire, dans un tout nouveau parcours de visite. De l'intime à l'universel, reconstituez les multiples facettes de Jeanne la Pucelle. Plus d'infos sur maisonjeannedarc.vauge.fr.
On balade également le dimanche avec Olivier Pouls et Vanessa Zah. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Direction l'Oise, Vanessa, le château de Compiègne et sa forêt. Allez, pour un week-end vert.
Et élégant aussi, parce qu'on part fêter les 100 ans de la disparition de celle qu'on surnommait la Marie-Antoinette du Second Empire. Vous avez une idée?
Eugénie.
Forcément, Eugénie, voilà. Et c'est au château de Compiègne qu'ils se sont rencontrés avec Napoléon III. C'était en 1852, en décembre. Et là, c'est un coup de foudre. Et donc, dès 1953, elle va s'installer, elle va poser ses mâles. Voilà.
Comme
moi, je suis au 19e.
Comme si c'était hier. Ben voilà.
Et donc, elle s'installe au domaine et elle commence à organiser les fameuses séries de Compiègne. Vous savez, tous les ans, pendant un mois et demi, ils invitaient les têtes couronnées de l'Europe, l'élite donc, du Second Empire, les artistes, les scientifiques. Il y a quand même 5000 invités qui ont foulé les pelouses du domaine pendant leur règne.
Pas en une seule fois,
évidemment. Et en ce moment, il y a une exposition qui présente la garde-robe de génie. Alors, Laure Chabanne, la conservatrice du patrimoine du château de Compiègne, nous a sélectionné les tenues les plus représentatives de ces séries.
Alors, l'objet qui rappelle le plus les séries, effectivement, c'est la tenue de vénerie, puisque c'était une activité très importante des invités à Compiègne. Et puis aussi les corsages du soir. Donc nous avons trois corsages qui sont vraiment des pièces exceptionnelles parce qu'il y a très peu de vêtements de ce type qui sont conservés. Donc des corsages avec leur garniture de dentelle ou de tulle et qui évoquent bien le luxe et le goût du faste de cette époque.
Donc on partait à la chasse, vous l'avez compris, on jouait, on faisait la fête. Il y avait un petit côté un peu grandes vacances, un peu à la bling bling à cette époque-là.
Donc on s'imprègne un peu de cette ambiance.
Si vous voulez en savoir plus, il faut faire les visites hors circuit du château. Vous êtes accompagné d'un conférencier, puis là vous arpentez les appartements des invités. Là les murs parlent, ils sont bourrés d'anecdotes, ça dure 2 heures.
Les murs parlent.
Oui, et évidemment il y a des visites théâtrales aussi avec Acta Fabula. Mais toujours mieux moi, oui. C'est les sceptres d'hier. Et ces comédiens redonnent vie au séjour, aux grandes personnalités, à toutes ces fameuses séries.
Et des activités peut-être.
Hein, aussi, on savait qu'elle aimait la mode, mais aussi l'art. C'était une femme entourée des plus grands portraitistes. Et donc on organise des ateliers pour les enfants autour du portrait de l'impératrice. Puis si vous êtes plutôt nature, il faut aller marcher sous le berceau de l'impératrice. Une tonnelle de 400 mètres qui avait été construite à la demande de Napoléon Ier. Et on l'empruntait évidemment pour se cacher du soleil du palais à la forêt.
Allez, et si on veut se poser?
Le Moulin Royal, à 15 km de Compiègne. C'était un moulin à farine, mais ça a aussi été l'atelier de confection et de textile de génie. Mmh. Elle expérimentait là-bas ses nouvelles créations, des bains de couleurs, différents motifs. Donc c'est une adresse chargée d'histoire. Et là, on est au milieu de 4 hectares de verdure. Et en plus, vous vous endormez avec le son des clapotis de l'eau pour 85 euros. Donc ça berce, ça reste assez accessible.
Bon, je ne sais pas si on va rester dans l'eau, mais en tout cas avec Olivier Pouls.
Non, mais on va rester à Compiègne.
Ah bah,
parce
tiens,
que vous savez, à Compiègne aussi, Napoléon et Marie-Louise se sont mariés en 1810. Mm-hmm. Et en l'honneur de ce mariage...
Là, on parle du premier Napoléon.
Oui, exactement. Un gâteau a été créé.
Ah ouais.
Et ce gâteau a un peu disparu de la circulation. Ça fait partie de ces petites pâtisseries oubliées. Ben, moi, je vais le faire revivre, figurez-vous. Mm-hmm. Je vais vous donner la recette du fameux gâteau de Compiègne, qui est un gâteau qui ressemble un peu dans l'esprit à un baba au rhum. C'est un gâteau imbibé, comme on dit.
Mais de quoi?
Je sais que vous aimez ça.
Tout de suite.
Alors,
il m'a vu à l'heure, c'est pour ça.
Un sirop avec un peu de rhum dedans, et puis surtout, on l'accompagne de fruits confits, et notamment dans la version napoléonienne, il se régalait de tranches d'ananas servies avec ce gâteau. On va le faire sans.
Qui était à l'époque une nouveauté.
Quelque chose de rare et de très prestigieux. Alors, il vous faut, pour réaliser le gâteau en lui-même, 300 g de farine, 40 g de sucre, 3 œufs, plus de jaune, un peu de levure, 10 g, un peu de crème liquide, 10 centilitres, 200 g de beurre. Et puis, il vous faut, pour faire le sirop, 30 centilitres d'eau, 200 grammes de sucre et un trait de rhum, hein, mon cher ami, et puis une petite gousse de vanille.
Le trait, c'est comme on veut.
Ah, voilà, donc oui. Vous allez mélanger tous les ingrédients du gâteau en finissant par le beurre fondu. Vous obtenez une belle pâte que vous allez mettre dans un moule à kouglof, par exemple, et vous allez laisser reposer pendant 35 minutes à température ambiante, de manière à ce que la levure commence à agir et que le gâteau prenne un petit peu de volume. Cuisson assez facile, hein, 35 minutes dans un four à 180 degrés. Puis à côté, vous confectionnez le sirop. Alors le sirop, on va faire fondre le sucre, on va rajouter un peu d'eau, le trait de rhum, hein, qu'on n'oublie pas, mais le rhum...
Arrêtez de me regarder comme ça, c'est pas possible, j'ai passé pour un alcoolique.
Non, mais l'alcool va s'évaporer. Donc en fait, il n'en restera pas beaucoup dedans. Vous pouvez même le servir aux enfants, c'est dire.
Oh là.
Voilà, vous grattez le bâton de vanille, vous rajoutez un petit peu de vanille là-dedans, et puis bah, il n'y a plus qu'à, lorsque le gâteau sera sorti, démoulé et refroidi, bah, on va gentiment l'imbiber avec ce sirop, et puis si ça vous amuse, quelques tranches d'ananas confites, mais moi je m'en passe.
On peut mettre autre chose que les ananas, par exemple.
On peut mettre de l'orange confite, des petits morceaux d'orange confite avec, c'est absolument délicieux.
Et pour accompagner ce gâteau, justement, puisque on est dans le rhum, là, un petit vin sucré,
Le rhum, pourquoi pas, évidemment, mais bah oui, bien sûr. Non, bon. Mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allons-y avec un vin liquoreux, pas trop sucré, parce que sucre sur sucre, pourquoi pas, voilà, ou un vin doux d'Alsace, vous savez, une vendange tardive alsacienne, par exemple, de Riesling, avec ce côté un petit peu plus vif. Et je pense que ça équilibrera bien le gâteau. Mais sinon, hein, le petit verre de rhum, ça peut le faire. Hein.
Bah voilà, très bien, on y est.
Un bon rhum agricole.
Arrêtez de me regarder comme ça. Vous. Hey, allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.